Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Guy Bruy.
Nous recevons aujourd'hui Alain Bicoque, professeur agrégé de philosophie, inspecteur pédagogique régional de philosophie, fin lecteur et commentateur avisé de Spinoza. Vous n'êtes pas, Alain Bicoque, un inconnu pour nos auditeurs, puisque vous vous êtes ici même entretenu avec Emmanuel Huysmans-Perrin il y a 2 ans, pour être précis, de votre premier ouvrage « spinoziste », entre guillemets, « Spinoza et les spectres », qui était paru en 1987. Vous avez publié en 1997 un second livre, « Les combats de Spinoza », et un troisième doit paraître en janvier, aux éditions Plein Feu, intitulé « Spinoza, question politique au pluriel, question au pluriel aussi de politique ». Et nous allons essayer de nous interroger aujourd'hui sur l'originalité et l'actualité de la pensée politique de Spinoza. Dans ce livre que j'ai lu avant parution, vous écrivez « Il n'est pas inintéressant de noter que de nombreux manuels d'histoire des idées politiques qui insistent pour la période du XVIIe siècle sur les théories de Hobbes, de Locke et autres passent sous silence l'apport de Spinoza. » Alors, pouvez-vous nous dire en quoi ce silence est pour vous intéressant ?
Écoutez, je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre émission. Le traité politique, sur lequel je m'interroge, bien sûr, dans ce dernier ouvrage, le traité politique, c'est un ouvrage inachevé. Et il est tombé, en fait, dans l'oubli, tout simplement parce que on ne voyait pas bien, les commentateurs ne voyaient pas bien ce qui différenciait la position spinoziste à propos de la politique de ce qui le différenciait, donc, de Hobbes. Hobbes, c'est, si vous voulez, son maître à penser, d'un point de vue philosophique, son maître à penser, non pas au sens de maître qui dirige son élève, mais ce sur lequel il s'est interrogé. Or, Hobbes défend une thèse à laquelle Spinoza a souscrit pendant plusieurs années, selon laquelle, puisque le monde est un perpétuel combat des uns contre les autres, ce que Hobbes appelle la guerre de tous contre tous, il faut une sorte de contrat, de pacte social pour arrêter ces combats qui sont mortels pour l'humanité entière. Et Hobbes invente ce pacte où les hommes abandonnent de leur liberté au profit d'un tiers. L'idée de Spinoza sera de montrer que les hommes ne peuvent pas abandonner leur liberté au profit d'un tiers puisque leur liberté appartient à leur nature. C'est comme si on demandait à un carré de devenir de lui-même un triangle. C'est pas possible. Dans la définition du carré, il y a les 4 côtés. On ne peut pas devenir une figure géométrique à 3 côtés. Spinoza, par conséquent, abandonne peu à peu la thèse du pacte social originaire. Et alors que dans l'éthique, œuvre majeure de Spinoza, commentée par multiples lecteurs, le traité théologico-politique, qui fut lui aussi une œuvre fort importante et fort commentée, on ne s'était pas aperçu que dans le traité politique, la notion de pacte social avait complètement disparu. De grands penseurs contemporains, de grands spinozistes contemporains, je cite par exemple l'Italien Antonio Negri ou je cite Matron, montrent qu'effectivement, il n'y a plus de pacte social dans le traité politique. Ils expliquent pourquoi. Et par conséquent, toute la question de la filiation Spinoza-Hobbes disparaît. Alors, pourquoi cet oubli ? Cet oubli, en fait, est, à mon avis, assez simple à comprendre. Nous sommes habitués à des thèses contractualistes. La thèse de Hobbes, qui consiste à dire, par conséquent, j'abandonne une partie de moi-même au profit d'un tiers, ou la thèse rousseauiste, qui consiste à dire, dans le contrat social, si vous voulez, qu'il faut dépasser la volonté des individus au profit de la volonté générale pour, effectivement, constituer une société, une organisation sociale viable. Ces deux thèses prédominent dans la culture française et dans l'enseignement français, dans la vulgate philosophique française. Ces deux thèses prédominent. Et par conséquent, en général, Hobbes, c'est le méchant par rapport à Rousseau. Nous sommes toujours restés rousseauistes, hein, à ce point-là. Donc, de ce fait, Spinoza avait disparu peu ou prou, mais enfin, avait disparu de la recherche philosophique contemporaine, de la philosophie politique contemporaine, en ce sens-là. Alors, par exemple, je prends la notion de contrat, mais si on pense aussi à autre chose, la notion de tolérance. Tout le monde dit, à la lecture du traité théologico-politique, que Spinoza est le philosophe de la tolérance. Effectivement, le dernier chapitre du traité théologico-politique dit que dans un État libre, les hommes doivent pouvoir s'exprimer et penser s'exprimer librement, donc se tolérer les uns les autres. On ne s'était pas aperçu jusqu'à manière très récente que Spinoza n'emploie jamais le terme de tolérance. Autrement dit, comme vous voyez, la lecture était tellement induite par tout un passé culturel qu'on ne comprenait pas pourquoi Spinoza pouvait être important en philosophie politique. Voilà en gros, si vous voulez, les raisons qui font que je dis qu'il n'est pas inintéressant de noter que de nombreux manuels d'histoire de la philosophie politique passent sous silence l'apport de Spinoza.
Donc, revenons à Spinoza aujourd'hui. Alors moi, quand je lis Spinoza, ce qui m'arrive de temps en temps, quand je suis pas un grand lecteur, des philosophes, mais enfin j'y vois enseigner un art de philosopher, un art dans les deux sens du mot. Et c'est ce que je comprends quand je vous lis, et je vous cite, « Pour Spinoza, il faut être terre à terre, ce qui me plaît beaucoup, et recueillir des faits livrés par les observations et les méditer. Or, que nous enseigne-t-elle, sinon les choses les plus simples ?» que quiconque perçoit quotidiennement, à savoir que les hommes sont des êtres sociaux et que leurs relations sont le plus souvent conflictuelles, mais qu'il y a aussi des plages d'entente, d'amitié, voire d'amour. Et quelque chose qui m'a aussi frappé, c'est combien Spinoza, dans le développement de sa réflexion philosophique, fait appel comme matériau à des histoires racontées par des historiens, plus peut-être qu'à ses confrères philosophes.
Oui, effectivement, Spinoza n'a pas beaucoup lu les philosophes. Il a lu Descartes, évidemment, puisqu'il a écrit un commentaire de Descartes. Il a lu pas mal de philosophes. Il a lu Hobbes, évidemment, comme je vous le disais à l'instant. Mais les philosophes ne sont pas ses livres de chevet. En revanche, l'histoire des historiens sont ses livres de chevet. Et par coup, tout simplement, parce qu'effectivement, il raconte ce qui se passe. Ils sont vraiment, eux, terre à terre. Alors, ce que Spinoza reproche, en particulier en philosophie politique, se reproche au système philosophique, c'est tout simplement parce que les philosophes, comme tout un chacun, observent la réalité. Une réalité qui, véritablement, est une réalité passionnelle, une réalité de conflit, constamment. Et par conséquent, les philosophes imaginent des systèmes où les conflits disparaissent. Et disparaissent. Autrement dit, ils inventent de manière rationnelle un monde où la paix règne. Or, tout le problème de la politique et de la philosophie politique, c'est non pas d'imaginer un monde réglé, mais de comprendre comment il va se régler. Or, les philosophes, selon Spinoza, bien évidemment, font l'impasse sur cette démarche. Les hommes politiques, eux, ne font pas du tout l'impasse sur cette démarche. Évidemment, les hommes politiques, ils sont au charbon, si je puis dire, c'est-à-dire qu'ils travaillent tous les jours sur le problème de savoir comment on va régler ces problèmes. Comment on va régler les conflits continuels qui existent entre les hommes. Comment on peut faire en sorte que les hommes s'entendent entre eux, les hommes politiques. Quelqu'un que Spinoza a beaucoup lu et beaucoup médité, à savoir Machiavel, est celui qui travaille sur ce terreau, si je puis dire. Machiavel est un grand lecteur des historiens. Hein. Il a écrit des travaux sur, si vous voulez, cette lecture. Un grand lecteur des historiens. D'où l'idée que Spinoza, en fin de compte, si on regarde bien ce qu'il dit quand il compare les philosophes et les hommes politiques, Spinoza dit qu'en fin de compte, il préfère l'action des hommes politiques, même si l'action des hommes politiques est menée par la ruse, par la force, comme le dit Machiavel. Hein. Et naturellement, parce que effectivement, quand on fait de la politique au jour le jour, eh bien, il y a des rapports de force avec lesquels il faut compter. Il y a la ruse pour détourner ces rapports de force, etc. Alors, d'un côté, si vous voulez, vous avez les philosophes qui sont détachés de la réalité selon la caricature habituelle. D'un autre côté, vous avez les gens comme Machiavel ou les hommes politiques en général qui restent au niveau pragmatique et qui, par conséquent, engrangent une sorte de pessimisme. On ne s'en sortira pas, c'est toujours la même chose. Alors, Spinoza, par conséquent, lui, va essayer de tenir ces deux bouts de la chaîne, c'est ce que j'appelle ce que vous avez appelé, excusez-moi, mais je reprends à mon compte, un art de philosopher. Qu'est-ce que c'est qu'un art de philosopher ? C'est que, en dépit d'une démarche abstraite, parce que c'est vraiment un philosophe de l'abstraction, hein, Spinoza, en dépit d'une démarche apparemment dogmatique, parce qu'effectivement, l'éthique, en général, c'est une série de propositions avec des démonstrations, etc. Il va se situer aux antipodes de cela. Quand je dis qu'il faut qu'il soit terre-à-terre, hein, être terre-à-terre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il nous indique quelque chose, un chemin à suivre. Il nous indique un chemin à suivre, c'est-à-dire qu'il faut que nous fassions comme lui, que nous forgions notre propre méthode de pensée et d'action. Quand je dis un chemin à suivre, ça ne veut pas dire qu'il faut le suivre comme un disciple suit son maître. Ça veut dire qu'il faut que nous élévions à nous-mêmes. Il faut que nous élévions à nous-mêmes, que nous soyons attentifs aux aléas de la vie quotidienne, attentifs aux aléas de nos réactions pour tenter de les moduler, de les rectifier, de les penser, etc. Autrement dit, la raison spinoziste, ce n'est pas une sorte de faculté qui s'agirait de mettre en mouvement. La raison spinoziste, c'est une pensée qui se forge constamment en se confrontant aux choses et en se confrontant à elle-même. D'où, j'aime pas beaucoup, si vous voulez, le terme de doctrine. Quand on parle de doctrine spinoziste, il n'y a pas de doctrine spinoziste. Mais même si on peut aller plus loin, je peux aller plus loin, chez les grands philosophes, il n'y a jamais de doctrine. Hein. Ils ont des idées, ils ont des thèses, ils ont des systèmes, mais il n'y a pas de doctrine au sens où il serait doctrinaire, si vous voulez.
Alors, confrontons-nous aux choses précisément et rapprochons-nous d'une réalité qui va être peut-être un peu polémique. Il y a deux termes sur lesquels je voudrais interpeller. C'est citoyen et sécurité. Alors, citoyen d'abord, parce que, écrivez-vous, cet homme qui naît dans des conditions données et contingentes est un individu qui est porté à suivre sa pente naturelle et cet individu naturel, il s'agit qu'il devienne un citoyen. Or, aujourd'hui, il me semble que la question de la citoyenneté, qu'est-ce qu'un citoyen, est une question essentielle dans la vie politique de notre pays. Et voilà, le citoyen, selon Spinoza.
Vaste problème, notre question. Surtout le devenir citoyen. C'est le devenir citoyen qui est vaste parce que Spinoza nous dit, en gros, on ne naît pas citoyen, on le devient. Et même si nous vivons dans une cité, donc les membres d'une cité sont des citoyens, ils ne sont pas nécessairement citoyens. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Comment on peut passer du statut d'individu humain au statut d'homme citoyen. Et pour passer du statut d'individu humain au statut d'homme citoyen, il faut que la société lui donne le moyen de se réaliser lui-même, c'est-à-dire sa liberté de penser, c'est-à-dire sa sécurité. Pas de liberté sans sécurité. Parce que sinon, je risque à chaque instant, je risque la mort. Et si chacun risque la mort, l'État devient une coquille vide. Donc, en revanche, pas de sécurité sans liberté. Pas de sécurité sans liberté parce qu'à ce moment-là, s'il n'y avait pas de liberté, il n'y aurait plus d'homme. Puisqu'un homme est naturellement libre. C'est de sa spontanéité naturelle de pouvoir s'exprimer à travers ses passions, par exemple, mais à travers ses actions aussi. Si on supprime la liberté, un État tente de supprimer la liberté de l'homme, il supprime lui-même. Donc, un État doit permettre aux hommes de se construire en tant que citoyen, c'est-à-dire de lui donner non seulement les moyens légaux, c'est-à-dire de faire les permissions et les interdits, mais en même temps lui donner les moyens légaux de prendre conscience de son statut de citoyen. Et Spinoza, on ne l'a pas souvent remarqué, mais à la lecture, mes relectures de Spinoza, à fur et à mesure, j'ai compris ça. Spinoza est en train de nous dire, en gros ceci, l'État a la responsabilité de l'enseignement et l'État a la responsabilité de la culture. C'est en transmettant des savoirs, en élargissant la culture des individus et des gens, que les hommes prendront effectivement conscience d'eux-mêmes, prendront conscience de leur place dans la cité et par conséquent deviendront citoyens. C'est une tâche infinie que seule, je ne rentre pas bien sûr dans les détails, que seule la démocratie qui est quand même la prise en charge de l'homme par lui-même et du citoyen par lui-même, que seule la démocratie peut permettre de réaliser, mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle le réalise. Autrement dit, on ne devient pas citoyen, on n'est pas citoyen, on le devient. La démocratie n'est pas, N'EST, elle le devient constamment. Autrement dit, c'est un processus de démocratisation.
Autrement dit, ne pas confondre être citoyen, c'est-à-dire prendre sa place dans la cité, et être de nationalité telle ou telle.
Bien sûr.
Bien sûr, mais là est le problème.
Ben oui, évidemment.
Et alors la sécurité, car vous avez dit pas de liberté sans sécurité. Et justement, cette sécurité, on ne peut pas dire que c'est un mot qu'on n'entend pas, on ne parle que de ça. Est-ce qu'il ne conviendrait pas d'opposer cette pensée politique forte de Spinoza à ce qui est ce qu'on appelle l'idéologie sécuritaire, qui pour moi est une idéologie assez misérable?
Toujours pareil, de cet antagonisme entre liberté et sécurité, c'est cet antagonisme. S'il n'y a que de la liberté, l'État disparaît. S'il n'y a que de la sécurité, on prône le sécuritaire. Et par conséquent, l'État disparaît. Par conséquent, la thèse de Spinoza consiste à dire que c'est l'ensemble des membres de la société qui doit légiférer, qui doit instituer les institutions. Et par conséquent, bien sûr, les hommes ne défendent pas des intérêts communs, chacun a ses propres intérêts, mais la confrontation des intérêts permet, de donner un contenu et à la liberté et à la sécurité. Quand un régime politique, une institution politique, privilégie l'un, le sécuritaire, elle ne sait pas ce qu'elle devient. Autrement dit, ce que je veux dire pour conclure, c'est que les partisans de l'ordre ne sont pas ceux qu'ils croient.
Merci Alain Bicoque. Le temps étant notre maître, nous devons nous arrêter. Je terminerai en rappelant simplement que le 18 novembre a été décerné à Lucien Sève le prix de l'Union rationaliste et que les interventions à cette petite cérémonie amicale seront publiées dans un prochain carrier. Et que la prochaine émission, dans un mois, sera réalisée avec Michel Blay, historien des sciences, et que nous parlerons précisément du temps qui nous dévore. Je vous remercie encore une fois et au mois prochain.